temps de méditation. Et puis ensuite, dans une petite heure, je rappelle, on développe un point du dharma, c'est-à-dire de l'enseignement, et puis ensuite, question-réponse, un temps pour les questions-réponses. Continuez les questions. Il y en a de moins en moins. Par le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puis-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puis-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puis-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc on place tout d'abord le corps en méditation. Essayez de prendre une posture correcte, le dos très droit. On médite les yeux ouverts. Méditer veut dire être entraîner son esprit à être conscient de tout ce qui s'élève, les pensées, les sensations, les perceptions, les facteurs mentaux. Il n'y a rien à rejeter, rien à faire disparaître. Tout ceci continue de fonctionner pendant la méditation. Les personnes qui méditent depuis quelques mois, essayez de placer votre esprit simplement dans cet aspect connaissance qui reconnaît la présence de ces phénomènes sans se laisser emporter par ces phénomènes. Et pour les personnes qui débutent, alors que l'esprit n'est pas suffisamment entraîné, et qu'il risque de se laisser emporter par la moindre pensée qu'il traverse, alors on place son esprit sur un support tel que la respiration. Je suis conscient que j'inspire, conscient que j'expire. Et tout en étant conscient des pensées et autres phénomènes qui s'élèvent, j'essaie de ne pas perdre conscience de ce support.
lorsque l'esprit est conscient de tous les phénomènes, sans les suivre ni les rejeter, l'esprit demeure calme, serein, tranquille. se laisse pas aller à notre peur, on essaie de garder un esprit clair, lucide, très conscient. Si vous voulez un ouvrage pour aider votre pratique méditative, je vous conseille vivement cet ouvrage qui vient de sortir des éditions Tully, pure et simple, ça s'appelle. L'auteur est une femme, je vous donne le nom, Upasika, U-P-A-S-I-K-A, Upasika, c'est un titre, je crois, Upasika, qui, K-2-E, Nanayon, N-A-N-A-Y-O-N. Et c'est un joyau d'instruction pour une pratique extrêmement profonde et extrêmement simple. Cette femme était une Thaïlandaise, elle est née en 1901, elle est décédée en 1978, et elle pratique tout à fait dans la tradition de Ajahn Chah, hein, que beaucoup connaissent. Et cette femme n'a jamais été moniale, mais elle a vraiment mis en pratique cette façon de travailler sur l'esprit. Et elle a, avec son oncle et sa tante, créé un petit ermitage en Thaïlande. Et aujourd'hui, il y a 60 personnes qui vivent dans cet ermitage et qui continuent de pratiquer de la façon dont cette femme a enseigné. Et quand elle s'est mise à enseigner, à partir de l'expérience qu'elle vivait, c'est des enseignements, elle fait partie des enseignements des plus grands maîtres de Thaïlande. Voilà. C'est vraiment... moi, je crois que je suis de plus en plus Thaï. Parce que je trouve que ces enseignements sont extrêmement directs. On sait tout de suite comment placer l'esprit en méditation. Et que faire pour demeurer en méditation alors que tous les phénomènes continuent de s'élever dans l'esprit. Donc c'est une pratique que l'on peut faire bien sûr sur son coussin, mais que l'on peut faire à tout moment dans la journée, quelle que soit l'activité que l'on est en train d'effectuer. Et quand on est dans cette pratique-là, c'est clair, il n'y a rien d'autre à faire. Non seulement il y a ce calme de l'esprit qui s'installe, que l'on expérimente, mais petit à petit, plus on va en profondeur dans ce calme de l'esprit, plus l'actombe, la vision pénétrante, se développe, mais alors d'elle-même. Pas besoin de passer par l'approche analytique de l'actombe, etc. C'est-à-dire que la nature de cette conscience, se apparaît et on expérimente cette nature de l'esprit. Bon, il y a des enseignements comme ça qui sont comme des clés pour l'esprit. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette lecture. Après, ceux qui ne seront pas en accord avec ce genre d'enseignement, alors là, je veux bien qu'on en discute. Voilà. Alors, l'esprit d'éveil, la bodhicitta, l'attitude du bodhisattva. Nous avons vu, donc nous sommes dans le texte, les six causes pour un fruit. Nous avons vu l'équanimité, nous avons vu la bonté fondamentale. Si ce n'est pas clair en termes d'expérience, cette bonté fondamentale, continuez de bien la chercher en vous et d'essayer de la vivre, de la découvrir et de la développer, en tout cas d'en être absolument... d'être absolument sûr de sa présence et ensuite d'en prendre soin, je dirais. Aujourd'hui, on va voir l'amour et la compassion. On parle beaucoup d'amour et de compassion dans le bouddhisme. Effectivement, ce sont deux valeurs absolument majeures dans la pratique du grand véhicule, dans l'attitude du Bodhisattva. Alors le texte fait référence à plusieurs sutras, dont le roi des recueillements et puis le texte de Manjushri, dans lequel l'auteur reprend des citations que le Bouddha lui-même a faites pour bien montrer l'importance du développement de l'amour. Alors il y a trois niveaux au niveau du développement de l'amour. C'est tout d'abord une première réflexion qui serait comme ce serait merveilleux si tous les êtres possédaient le bonheur. Ensuite, c'est vraiment le souhait, puissent tous les êtres posséder le bonheur. Et enfin, troisième niveau, c'est je ferai en sorte que tous les êtres possèdent le bonheur. Donc l'attitude du Bodhisattva, elle commence très graduelle, hein, mais on voit dans certains textes que le Bodhisattva est quelqu'un eh bien, qui prend l'engagement de se sentir responsable lui-même, lui seul, du bonheur de tous les êtres. Alors, on n'en est peut-être pas là, hein, mais à terme, c'est cette force de l'esprit, cet engagement de l'esprit vis-à-vis de tous les êtres de façon vaste et équanime et vraiment de façon puissante, comme nous pouvons avoir ce souhait pour un proche que nous aimons particulièrement. Et quand nous aimons quelqu'un, eh bien, ce souhait paraît évident. Il paraît évident, mais on sent aussi en nous-mêmes eh bien, cette énergie pour que ce souhait se réalise et pour tout faire pour que ce souhait se réalise. Ce qui là encore, eh bien, marque, permet de toucher la puissance de cette bodhicitta, la puissance hein, de cet esprit d'éveil. Nous avons cela déjà en nous. Alors ça, il faut bien revenir là-dessus. Aidez-vous de votre expérience personnelle, de ce que vous pouvez éprouver en termes d'amour pour un de vos proches, votre conjoint, vos enfants, si vous en avez, etc. Et vous voyez que là, eh bien, c'est totalement évident et que vous le ressentez de façon extrêmement puissante. Si vous le ressentez pour une ou deux personnes, vous pouvez développer cet amour-là pour davantage d'êtres. Donc ensuite, comment faire? Comment considérer tous les êtres? Et comment modifier mon attitude, mon comportement, ma façon d'être pour me sentir davantage cause de bonheur ou responsable du bonheur eh bien, de tous les êtres. Je crois que c'est à partir d'une véritable prise de conscience personnelle que notre cheminement devient plus facile parce que il y a une évidence qui s'élève dans notre esprit. Je dois modifier quelque chose dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre, pour eh bien, que non seulement je sois moins cause de souffrance, mais davantage cause de bonheur pour les êtres. Et ça, c'est un travail qui doit se faire. Ça ne va pas se développer comme ça dans notre esprit, simplement parce que de temps en temps, on y pense et on en fait le souhait. Et c'est là où on fait le lien entre l'attitude du Bodhisattva et le besoin d'entraîner notre esprit pour modifier le fonctionnement ordinaire de notre esprit. Parce que si nous ne modifions pas ce fonctionnement ordinaire, malgré tous nos souhaits, lorsque les tendances apparaissent et s'affermissent dans notre esprit, ou s'élèvent de façon puissante dans notre esprit, ça envahit tout et la motivation, le souhait, c'est complètement balayé. On n'est pas... Il y a des personnes qui pensent que être bouddhiste, pratiquer le dharma, ça se résume à être zen. C'est-à-dire, ça va se faire tout seul. Il y a une exigence dans la pratique. Il y a une exigence, mais qui se base sur une prise de conscience. Ce n'est pas une exigence en termes de contraintes. Si vraiment nous voulons que tous les êtres soient heureux, qu'est-ce que je dois faire pour que ce souhait devienne quelque chose de concret? Et nous sommes prêts à le faire pour nos proches. Or, tous les êtres souhaitent être heureux, être libérés de toute forme de souffrance. Alors pourquoi est-ce une évidence pour nos proches et que nous devons, nous forcer pour que la personne que je ne connais pas particulièrement, voire la personne avec qui j'entretiens des relations plutôt conflictuelles, ce soit si difficile à développer dans mon esprit? Qu'est-ce que je dois modifier dans ce fonctionnement de l'esprit pour que cela devienne possible et que cela se développe? Et là, il faut bien faire le lien entre la méditation qui permet cette transformation de l'esprit et laquelle méditation entre en réponse avec ce souhait de Bodhisattva. Un Bodhisattva qui ne travaille pas sur son esprit, il n'a pas beaucoup développé son attitude altruiste et son attitude de Bodhisattva. Les voiles ne vont pas se purifier comme ça. Les tendances, les empreintes karmiques, les tendances égotiques de notre esprit, le formatage de notre esprit depuis des temps sans commencement, ce formatage qui se base sur la conception erronée d'une entité unique, autonome et permanente qu'on appelle le moi, ce formatage-là ne va pas disparaître comme ça, parce que simplement, un jour, on a compris que ce serait bien qu'il disparaisse. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça va se faire tout seul. Un jour, un bodhisattva, c'est quelqu'un qui prend l'engagement de faire ce travail-là, qui décide d'observer son esprit, qui décide d'observer son esprit pour voir que cet esprit-là, il ne permet pas la réalisation de ce souhait. Or, tous, à un moment donné, nous ressentons une aspiration profonde à ce que tous les êtres soient heureux, et pas seulement nos proches. Il y a quelquefois un élan comme ça de compassion, un élan d'amour qui se développe dans notre esprit. Ça dure peut-être une minute seulement, mais pendant une minute, ça devient évident. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, dont il faut prendre soin, et se dire, ça existe en moi, ça. C'est quelque chose de précieux. Vous savez, on parle dans les visualisations du Vajrayana, du joyau qu'exauce tous les souhaits. C'est la pierre que tient, le joyau que tient Chenrezig dans ses deux mains jointes. Ce joyau qu'exauce tous les souhaits, c'est ça, quoi. C'est cet élan intérieur qui ne passe pas du tout par la raison, mais qui, par moments, jaillit comme une espèce d'évidence, quoi. Et ça, quand ça se passe, il faut le retenir et vraiment en prendre soin. Et de se dire, mais puisque ça existe, qu'est-ce qui fait obstacle au développement, à l'expérience, au renouvellement de cette expérience dans mon esprit? Et là, nous devons étudier notre esprit, nous devons étudier le fonctionnement de notre esprit. Plus ça va, plus je suis convaincu que méditer, on doit associer la méditation, c'est-à-dire la méthode, à l'observation du fonctionnement de notre esprit. Et plus nous comprendrons le fonctionnement de notre esprit, plus nous comprendrons pourquoi nous devons méditer. Et ça devient alors facile de méditer, parce que nous faisons l'expérience que, ça transforme quelque chose dans notre esprit. Et que ça va dans le sens que nous voulons donner à notre esprit. Le Bodhisattva, c'est quelqu'un qui trace une voie, qui se donne un objectif, qui regarde dans une direction et qui ne déroge pas de cette direction. Rappelez-vous comment on traduit le terme Bodhisattva en français? Héros pour l'éveil. Héros pour l'éveil. Quelles sont les qualités que vous attribuez à un héros? courage. Bravoure. Ensuite,
détermination.
Comment ?
Bonté.
Bonté, peut-être, mais en tout cas, oui. Ces qualités de bravoure, de courage, de détermination, d'engagement, qui ne revient pas sur sa décision, et il avance, quels que soient les obstacles qu'il rencontre. Eh bien, dans notre pratique en termes de Bodhisattva, nous devons avoir cet esprit-là, quoi. C'est-à-dire, je dis souvent, le Bodhisattva, ce n'est pas de l'oukette, ce n'est pas une chic molle, ce n'est pas quelqu'un qui remet toujours en question son cheminement, ou qui médite lorsque tout va bien, ou lorsque ça ne va pas, mais qui oublie sa pratique, qui oublie son engagement. Chacun va à son niveau, va à son rythme, mais chacun doit maintenir tous les jours cet objectif. Je vais vers ça, parce que tous les êtres cherchent à être heureux, moi de même. Donc ce bonheur, eh bien, il m'appartient de leur offrir ce bonheur. À mon niveau. D'accord. Et donc, je dois me sentir responsable du bonheur d'autrui. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment l'attitude du Bodhisattva. Vous savez, il y a des personnes qui viennent quelquefois nous voir et puis quand on commence à leur parler d'exigences dans la voie spirituelle bouddhiste, laquelle exigence on la retrouve dans toutes les voies spirituelles, eh bien, quitte. Hein, on cherchait autre chose parce qu'il y a une notion d'exigence, une notion d'effort, une notion d'engagement, etc. Vous savez, dans le monde. Les activités mondaines, on n'a pas appris, si quelqu'un sait jouer du piano, il n'a pas appris à jouer du piano comme ça, quoi. Sans une exigence. La réussite professionnelle, ça se fait aussi par une exigence personnelle. La réussite sociale aussi. Et beaucoup de réussites mondaines, eh bien, passent par un engagement, par une exigence, etc. Et bien, la réussite du Bodhisattva passe par ces mêmes valeurs, en fait. Puisque personne ne peut transformer notre esprit à notre place. Hein, le Bouddha en mourant a dit, vous n'avez qu'un seul maître, vous-même. C'est bien pour montrer que, en fait, nous sommes responsables de la transformation de notre esprit. Il disait aussi, je ne peux que vous montrer le chemin. À un moment donné, il faut être sûr de ça, quoi. Alors, voilà, chaque jour, en fait, il faut se replacer un petit peu, eh bien, dans l'objectif spirituel que l'on se donne. Et quelle est la direction que l'on veut donner à notre journée? Est-ce que cette bodhicitta nous habite la plupart du temps dans notre journée? Et est-ce que c'est quelque chose qui devient, au fil du temps, de plus en plus important pour notre cheminement spirituel? Voilà, ça c'est, de temps en temps, il faut se reposer la question. Et je crois que quand on se la pose, c'est l'équivalent de reprendre les vœux de Bodhisattva, même si c'est pas la formule que l'on récite dans les textes traditionnels. Vous savez que je suis de moins en moins, mais alors vraiment de moins en moins. Là, j'étais à Berlin le week-end dernier et je leur disais, mais n'enregistrez pas tout parce que je crois que je deviens de moins en moins traditionnel dans la façon de pratiquer. Pour moi, c'est de plus en plus l'esprit qui pratique, et les textes, la forme, tout cela, c'est très utile, mais ça doit nous replacer, c'est là pour replacer notre esprit dans l'esprit de cette bodhicitta. Et si aujourd'hui, si ce soir, on ressent cette bodhicitta très forte dans notre esprit, et que ça nous donne un grand coup de fouet pour la pratique et vraiment pour changer quelque chose dans notre attitude, peu importe si on n'a pas récité les textes qu'il faut réciter avant. Par contre, si notre esprit s'éloigne de la pratique, s'il s'éloigne de la bodhicitta, si on est de plus en plus dans la distraction, de plus en plus dans l'attachement aux activités mondaines,
de plus en plus indifférent à nos facteurs perturbateurs, là on peut se dire, il y a mon esprit qui dévie. Donc il me faut trouver un moyen pour ramener l'esprit, eh bien, dans l'axe que j'ai envie de lui donner. Et là, les textes peuvent être utiles. Voilà. Les pratiques formelles peuvent être utiles. Mais les textes, les pratiques, ce ne sont que des moyens. Ne confondez jamais les moyens avec la finalité. Alors, pour développer cet amour de façon plus vaste et équanime, pour tous les êtres, il faut réfléchir sur l'interdépendance. Donc ça, on en a déjà bien parlé. Mais plus on réfléchit sur l'interdépendance, à partir d'expériences extrêmement concrètes de notre vie quotidienne, plus on se rend compte du caractère précieux de tout ce qui nous arrive et de combien nous sommes en fait redevables à une infinité d'êtres pour simplement, je ne dirais même pas être heureux, pour simplement vivre un minimum de confort. Dans le fait de se nourrir, dans le fait de se vêtir, dans le fait de parfaire notre culture, notre éducation, etc. Encore et encore, nous devons réfléchir à la quantité incroyable d'êtres qui ont participé de façon directe ou indirecte pour que nous puissions nous nourrir, par exemple. Et plus cette réflexion est profonde, plus nous allons accorder une valeur, eh bien, au fait de pouvoir se nourrir aujourd'hui, etc. Et nous allons développer, mais de façon naturel, davantage de gratitude pour tous ces êtres qui ont participé et qui ont permis, eh bien, à ceci de s'accomplir, de se réaliser. L'interdépendance, c'est, je crois, une réflexion qui va nous permettre de réaliser les deux bodhicitta, les deux aspects de la bodhicitta. On parle toujours de l'interdépendance pour réaliser le non-soi, pour réaliser la vacuité, c'est-à-dire la bodhicitta ultime. Évidemment que si toute chose est interdépendante, cela veut dire que rien n'a d'existence propre, et que donc tout dépend de quelque chose. Mais cette réflexion sur l'interdépendance, eh bien, elle permet aussi de réaliser la bodhicitta relative, c'est-à-dire l'amour, la compassion, tout ce comportement de bienveillance et de réalisation de bienfaits pour autrui. Donc le texte dit « Méditez alors sur l'amour jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune différence d'intensité entre le souhait de joie que vous formulez pour les deux premiers types de personnes et pour cette troisième. » C'est-à-dire, là, le texte prend l'exemple que nous devons commencer à développer ce sentiment d'amour extrêmement fortement pour tous les êtres avec qui nous avons une relation forte et une connexion karmique très forte et pour qui nous éprouvons de l'affection, de l'amour, de l'amitié, etc. Commencer par ce type d'être, c'est une évidence parce que notre esprit a envie de développer cette attitude altruiste et d'amour envers ces êtres-là. Mais nous ne devons pas, c'est assez facile pour nous, mais nous ne devons pas nous arrêter à ce type d'être. Nous devons étendre cette pratique en visualisant, en pensant, et ça c'est l'exercice qu'on voit depuis le début, en pensant à des êtres pour qui nous avons plus de l'indifférence. Non pas d'aversion, mais pas non plus d'amour ni attachement. En comprenant que ces êtres-là aussi aspirent au bonheur. Et que si je suis en relation avec elle, si j'ai une connexion avec elle, eh bien, je peux transformer la qualité de cette connexion. Et un bodhisattva, eh bien, se sent responsable de la transformation de sa connexion, de sa qualité de connexion avec tel ou tel individu. C'est-à-dire que si par exemple nous sommes en lien ce soir, tous ici, ça veut dire que sur le plan karmique, il y a une connexion entre nous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de, comme ça, un coup de bol, un coup de chance, même pour une personne qui passe ici une fois et qu'on ne revoit jamais. Kalon Rinpoche, hein, le précédent Kalon Rinpoche, insistait beaucoup là-dessus. Les connexions. Nous ne savons pas, alors il disait souvent ça, il dit, nous ne savons pas quel a été le premier contact que nous avons pu avoir, qui fait que ce soir nous nous retrouvons. C'est pourquoi vous aimez tel individu, par exemple, votre conjoint. Bien sûr qu'il y a des sentiments qui se sont développés entre vous et qui font que, eh bien voilà, vous ressentez de l'amour, etc. Mais plus loin que ça, pourquoi c'est cet individu-là chez qui vous ressentez ces sentiments ? Parce que ces sentiments existent chez d'autres personnes aussi. Et pourquoi ce lien passe entre vous et cette personne ? Eh bien parce qu'il y a une connexion karmique, il y a un lien karmique. Et cette loi de causalité, cette loi du karma, en fait, est présente absolument dans toute chose, dans l'interdépendance et dans tout. C'est comme un réseau qui fait que, eh bien, nous sommes en relation avec un tel, une telle, etc. Donc, nous n'avons pas un lien karmique seulement avec les personnes avec qui nous nous entendons bien. Nous avons un lien karmique aussi avec la boulangère du coin. Et nous avons un lien karmique avec notre pire ennemi. Et le lien karmique avec notre pire ennemi est souvent plus important qu'avec la boulangère du coin. Parce qu'il y a une intensité dans la relation qui à ce moment-là s'établit sur une relation de haine peut-être, hein, ou d'aversion. Mais il y a une intensité dans ce lien qui est très puissant. Et qui peut être aussi puissant que dans le cas d'une relation entre deux êtres qui ont de l'amour entre eux. C'est pourquoi, pour un bodhisattva, c'est si important de pouvoir faire la paix avec ses ennemis, quoi. De pouvoir régler ses problèmes, et si on ne peut pas régler ses problèmes concrètement parce que la personne n'est plus là, ou parce que la personne est décédée, etc., pouvoir apaiser et régler ses problèmes au niveau de l'esprit. De façon à ce que cette connexion karmique, eh bien, elle se transforme en une connexion karmique positive. Parce que ce sont toutes ces connexions karmiques, toutes ces empreintes, toutes ces empreintes karmiques que l'on emporte quand on passe de l'autre côté, parce qu'on n'emporte rien du tout, c'est-à-dire tous ces conditionnements de l'esprit, on part avec. Et ces connexions karmiques, de quelque nature qu'elles soient, on les retrouvera, de toute façon, dans la prochaine existence, puisque elles font partie des conditionnements de notre esprit. Donc, on ne les retrouvera pas sous la même forme, mais la qualité, entre guillemets, de relation sera toujours là. Donc si nous avons de la haine aujourd'hui pour quelqu'un, et que nous ne pouvons pas transformer cette haine, cette personne, après notre vie, de toute façon, on retrouvera cette connexion karmique, et toujours sous ce conditionnement de haine. Donc, c'est pour ça que ce texte met en évidence l'équanimité dès le départ de l'explication de ce texte. Kalon Rinpoche insistait beaucoup là-dessus. Il disait que la connexion karmique peut se faire à partir d'un fait extrêmement insignifiant. La première connexion peut être totalement banale et insignifiante. Mais l'effet de cette connexion peut-être plus importante. Et ça, c'est quand on étudie la loi de causalité, hein, l'effet est toujours disproportionné par rapport à la cause. C'est-à-dire que un grain de blé va donner un épi de blé, pas un grain de blé. C'est un peu le même système, si vous voulez, dans l'histoire du karma, l'histoire de la causalité. Et il ne faut pas voir le karma toujours en termes de karma négatif. Il faut voir aussi le karma en termes de karma positif. Toutes les connexions, tout ce que nous faisons de positif, etc., bien, c'est karma positif. Donc ça donnera un fruit de cette même nature, c'est-à-dire un fruit positif de la nature du bonheur. Donc développer cet amour, c'est à la fois développer quelque chose de positif pour autrui, mais on crée par là même notre propre futur bonheur. Et puis je crois que ce développement de l'équanimité dans le développement de l'amour, ça nous rend immédiatement heureux, ça ne va pas nous rendre heureux seulement dans la vie prochaine, mais là dans l'immédiat, eh bien notre esprit est nettement plus détendu, ouvert et calme lorsqu'il est dans cette attitude intérieure. Comment est notre esprit lorsque nous manifestons de l'amour à un proche, par exemple? C'est clair. Il n'est pas stressé. Il n'est pas en souffrance, en tout cas. Il est plutôt détendu, plutôt heureux. Voilà. Donc, ça devrait être évident. Voilà, donc le texte dit « Élargissez graduellement votre méditation jusqu'à englober tous les êtres des 10 directions. » Il vous faut réfléchir encore et encore aux inconvénients liés à l'absence de bonheur et aux avantages propres à sa possession. Vous devez d'abord réfléchir à la grande bonté dont ils ont fait preuve, dont les êtres ont fait preuve à votre égard, et en retour, développer le souhait, puissent-ils posséder le bonheur et sa cause. Alors, il conclut en disant que à l'issue de cette étude, à l'issue de cette pratique, de ce développement de l'amour pour tous les êtres, eh bien, vous serez à même de trouver en chaque être quelque chose d'agréable. Donc, ça va modifier complètement notre perception d'autrui. Pour ceux qui sont dans des pratiques du Vajrayana, eh bien, c'est par cette transformation intérieure de notre esprit que on voit cette jalousie chez l'autre. Cette nature de Bouddha dont on parle tout le temps, sous la forme de Chenrezig, eh bien, est perçue chez l'autre, même si en apparence, quelquefois, il est difficile de la percevoir. Alors, la compassion. Alors, donc, l'amour, c'est vraiment basé sur le souhait que l'autre soit heureux. C'est cette notion de bonheur. La compassion, c'est pour qu'il soit heureux, il faut qu'il soit libre de souffrance. Alors, dans un premier temps, comment en observant mon esprit, en observant mon comportement, comment est-ce que je suis cause de souffrance pour autrui? Comment mon attitude peut causer de la souffrance pour autrui? À la fois par mon attitude physique, mais aussi par mes paroles, et tout simplement par mes pensées. Et dans cette observation, il n'y a vraiment pas de place pour la culpabilité ou pour se dire que nous sommes bons à rien parce que, eh bien, notre attitude de temps en temps peut encore être cause de souffrance pour autrui. Il faut simplement être conscient de ça et voir à partir de quoi cette souffrance, donc quelle est l'attitude, pourquoi j'ai cette attitude qui cause de la souffrance pour autrui, à partir de quoi cette attitude s'élève. Et si nous décortiquons le processus, quand on agit alors que cet acte est cause de souffrance pour autrui, on constate, on observe attentivement, que notre esprit est à tous les coups sous l'emprise d'un facteur perturbateur. Et ça, c'est automatique. s'il y a absence de facteurs perturbateurs, l'attitude, notre attitude ne peut pas causer de souffrance. Il y a de la jalousie, il y a de la colère, il y a de l'ambition, il y a de l'envie, il y a de la haine, il y a de l'aversion, il y a un désir de vengeance, il y a de l'indifférence, etc. À chaque fois que notre esprit est sous l'emprise d'un ou de ces facteurs perturbateurs, on constate qu'il y a souffrance pour nous et que notre attitude provoque de la souffrance pour autrui. Donc ça, c'est là encore, cette observation de l'esprit est indispensable pour modifier par la méditation ces facteurs perturbateurs, de façon à ce qu'ils diminuent. Alors quand on, quelques mots là-dessus, quand on dit qu'il faut purifier les facteurs perturbateurs, la purification, c'est le fait que ces facteurs perturbateurs perdent de leur puissance. Et comment peuvent-ils perdre de leur puissance alors qu'ils continuent de s'élever dans notre esprit? Simplement en ne les suivant pas, ne les entretenant pas et en ne les fixant pas. Et c'est pour ça qu'il est si important, et dans ce livre pur et simple, qu'elle le rappelle, mais alors vraiment encore et encore, hein, que ces facteurs perturbateurs, eh bien, ne sont pas un obstacle en soi, quoi. Et n'attendez pas dans votre pratique que ces facteurs perturbateurs ne s'élèvent plus dans votre esprit. Mais simplement ne les craignez pas. Ne les craignez plus. Aujourd'hui, on en a peur, parce que jusqu'à présent, on se laisse emporter par ces facteurs perturbateurs. Et sous l'emprise desquels, eh bien, on dit des choses tout à fait désagréables, on peut agir de façon désagréable, voire on peut penser, seulement penser, mais de façon très désagréable. Il y a des raisons, il y a des conditions, des causes et des conditions qui font que tel ou tel facteur perturbateur, eh bien, peut s'élever dans notre esprit. Pourquoi en avoir peur? Pourquoi vouloir la disparition totale de ces facteurs perturbateurs? Ce qu'il faut modifier, c'est la façon de réagir par rapport à la présence de ces facteurs perturbateurs. Si vous ne les suivez pas, que fait un facteur perturbateur? Mais à cette vitesse-là, hein. Vraiment à cette vitesse-là. Et si vous n'êtes pas convaincu, amusez-vous. Alors pas avec le facteur perturbateur qui, 9 fois sur 10, vous entraîne, mais avec d'autres facteurs perturbateurs qui sont moins puissants dans votre esprit. Mais amusez-vous. Ça, c'est méditer en s'amusant, quoi. Faites naître un facteur perturbateur, observez-le, mais ne le suivez pas. 30 secondes après, il a totalement disparu. Et quand vous commencez à expérimenter ça, bah, s'il s'élève une nouvelle fois, vous le craignez de moins en moins. Et non seulement vous le craignez de moins en moins, mais vous ne le suivez pas. Et par le fait de ne pas le suivre, ce facteur perturbateur perd de sa puissance. Et c'est en cela qu'on peut parler de purification du facteur perturbateur. Le fait de le suivre et de l'entretenir, eh bien, ça lui donne encore plus de force et plus de force. Et plus on le renforce, plus il sera puissant, plus il sera difficile, eh bien, de le lâcher et de le laisser passer. Pour moi, c'est vraiment ça le fait de méditer. La concentration, par exemple, quand on parle de concentration, hein, ou de non-distraction, ce n'est pas tant être focalisé sur un point de méditation, sur un support de méditation, mais c'est plutôt savoir ce qui se passe dans notre esprit et vraiment laisser passer, quoi. Et chaque fois que vous laissez passer, votre esprit reste dans un état conscient, mais de calme total, sans aucune ride de crainte, de peur, d'insatisfaction, etc. Et tout passe, tout s'élève, J'allais dire tout passe et tout trépasse. Ça passe, ça disparaît. Ça s'élève, ça disparaît, etc. Et il n'y a plus rien à craindre. Et si l'on s'entraîne sur des phénomènes sur lesquels il est facile de s'entraîner, plus nous allons nous entraîner sur ce genre de phénomène, plus l'esprit sera entraîné, et petit à petit, on verra que les phénomènes que l'on a bien l'habitude de saisir aujourd'hui, eh bien, eux aussi, il y aura une non-saisie, et pour une première fois, on se dira, ah tiens, cette colère qui d'habitude me fait toujours peur et toujours réagir violemment, aujourd'hui, je l'ai vue, mais je ne l'ai pas suivie, elle a totalement disparu, et disparu peut-être en 30 secondes. Et là, on commence à parler de purification des voiles. Mais bien sûr que ça demande un entraînement. Les sensations. Faites l'expérience si vous avez une sensation physique désagréable, voire douloureuse. Et comment vit votre esprit si votre esprit ne se fixe pas sur cette sensation-là? Comment vit votre esprit? Quelle est l'expérience qui va s'élever? Faites cette expérience-là. Parce que le jour où on va être vraiment malade, c'est qu'il y aura peut-être une souffrance physique, voire une souffrance mentale, si notre esprit n'est pas habitué, n'est pas entraîné à cela, alors là, il risque de bien saisir, hein, et de bien crisper. Comment expliquer que des grands maîtres, qui meurent de maladies comme tout être ordinaire, hein, les agrégats se détériorent, et puis cessent, se modifient, hein. Et c'est comme chez un être ordinaire, comment ces maîtres-là, alors qu'ils ont tous les symptômes de telle ou telle maladie, eh bien, leur esprit est totalement libre de cette sensation. C'est-à-dire que l'entraînement de ne pas saisir tel ou tel phénomène, eh bien, c'est ça se pratique aussi sur les sensations, et également sur les perceptions. On pourrait criser hein, du bruit qu'il y a dans la rue depuis un quart d'heure. En quoi le fait de criser au sujet de ce bruit modifie ce bruit et la perception que l'on en a? Mais vraiment, rien du tout, quoi. Par contre, notre esprit peut se libérer eh bien, du caractère, entre guillemets, gênant de ce bruit. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas saisi, bah, ce bruit continue d'être perçu, mais notre esprit n'est plus dérangé, n'est plus affecté. Je pense que dès la pratique du calme mental, il y a libération déjà d'une forme de souffrance. Il n'y a pas à attendre l'actong pour expérimenter que la libération est possible. L'actong, ça va permettre de se libérer vraiment du voile le plus, on va dire, profond. Mais les facteurs perturbateurs, c'est le voile le plus grossier, et c'est vraiment chiné qui permet de se libérer de ce voile. Alors maintenant, puisque la compassion elle est basée sur la souffrance, il faut savoir qu'il y a trois formes de souffrance que décrit le Dharma. Il y a la souffrance du changement, la souffrance de la souffrance et la souffrance de tout ce qui est conditionné. La souffrance de tout ce qui est conditionné, c'est toutes les potentialités de souffrance que chaque composé a en lui par le fait d'être composé. Parce que ces différents composés sont en continuel changement. Donc il y a dans ces composés eh bien, la souffrance du changement. Et la souffrance du changement, vous la trouvez partout, parce que le changement est absolument partout. Tout à l'heure, je rencontrais quelqu'un, et je vous en parlerai à la fin, qui me disait, mais comment dans le bouddhisme vous parlez d'une entité immuable que chez nous, on appelle Dieu. L'entretien commençait mal, hein. Il lui dit ben, que dans le bouddhisme, il n'y avait pas la notion d'une telle entité, puisqu'il n'y avait rien d'absolu. Et que l'absolu dans le bouddhisme, c'est qu'il n'y a rien d'absolu. C'est-à-dire que tout est en continuel changement, tout est instable. Vous posez des questions, par exemple, sur le mariage. Dans le bouddhisme, est-ce que le mariage est quelque chose de vu comme définitif? Oui, jusqu'à ce que ça cesse. Parce que tant que les conditions sont là, et bien ma foi, ça peut se faire. Quand les conditions ne sont plus là, et bien ça n'est plus là. Et je l'ai même dit, même les vœux de, puisque c'est une personne chrétienne, je dis même les vœux monastiques dans le bouddhisme sont pris à vie, mais il est clair, à chaque fois qu'on prend les vœux, qu'il y a la possibilité de les rendre. Parce que qui peut dire que dans 10 ans, il rassemblera encore toutes les conditions pour vivre selon l'engagement qui lui semble être possible de vivre là, aujourd'hui. Donc il y a la possibilité eh bien, de mettre fin à cet état parce que les conditions ne sont plus présentes. Et c'est normal que les conditions ne sont plus présentes. Parce que ça se modifie d'instant en instant. Quoi. Et si elles ne sont plus là, elles ne sont plus là. Si vous n'avez pas de bois, eh bien, il n'y a pas de feu. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la souffrance du changement. Et ça, c'est une grosse souffrance pour nous, hein, la souffrance du changement. Franchement, on n'aime pas ça, quoi. Parce que dans notre esprit, nous fixons les choses, nous solidifions les choses, et nous, parce que nous attribuons une existence solide, intrinsèque, à toute chose. Et ça, c'est pas quelque chose que nous construisons volontairement. C'est ancré dans notre esprit, c'est le mode de fonctionnement de notre esprit eh bien, qui est habituel et qui est, comme on dit dans les textes, depuis des temps sans commencement. C'est-à-dire que notre esprit est eh bien pétri de cette perception. Nous croyons que les choses existent de façon stable, immuable, mais ce n'est qu'une croyance. Les choses ne sont pas... Si on observe les choses, les phénomènes, eh bien... On constate que ces phénomènes sont en constant changement. Nous souffrons à partir d'une illusion. Nous souffrons à partir d'une ignorance, c'est-à-dire du fait de ne pas voir la réalité, la nature même de toute chose. Quand on détruit cette illusion-là, cette souffrance qui est liée à cette illusion s'évanouit immédiatement. Et puis il y a la souffrance de la souffrance. La souffrance de la souffrance, eh bien, c'est une souffrance souvent intérieure qui se rajoute à une souffrance, par exemple, physique. Hein, dans le cas de la maladie en elle-même est douloureuse, mais notre esprit souffre d'être malade, n'accepte pas cet état de maladie. Et ça, c'est une souffrance qui se rajoute encore à cette souffrance. Et tous les êtres, dans le samsara, eh bien, font... inévitablement et à tour de rôle l'expérience de ces trois formes de souffrance. Et ces souffrances-là, eh bien, ça provient toujours de cette ignorance fondamentale, de cette conception erronée. Donc la compassion, c'est dans un premier temps comment faire pour que les êtres souffrent moins, c'est-à-dire qu'il y a une bodhicitta relative concrète, comment agir pour soulager, pour apporter un bienfait, pour faire que l'autre eh bien, souffre moins. Et ça, un bodhisattva eh bien, s'intéresse à cet aspect-là, relatif, mais il s'intéresse aussi à l'aspect ultime. Et l'aspect ultime, il ne peut pas le vivre auprès des êtres s'il ne le vit pas en son esprit, s'il n'expérimente pas cette bodhicitta ultime en son esprit, s'il ne comprend pas que cette perception d'une entité, cette conception d'une entité unique, autonome et permanente est une erreur. Et ce n'est pas la tête qui nous permettra de déraciner cette erreur, de déraciner cette illusion. Nous n'y arriverons jamais par le mental. Alors ça, c'est difficile. Parce que jusqu'à présent, nous avons l'idée fréquente que nous pouvons tout résoudre par notre mental. Ce genre d'illusion, on peut arriver à une certaine compréhension, mais cette compréhension, elle est à 100 lieues de l'expérience qui peut s'élever par la pratique méditative. Et seule la pratique méditative va déraciner cette illusion, mais vraiment la déraciner. C'est-à-dire que on va voir. C'est pour ça qu'on appelle la vision pénétrante. C'est la vue qui pénètre la nature même de toute chose. Et qui est... Oui, c'est comme... On prend souvent cet exemple d'un aveugle de naissance. Vous lui expliquez telle couleur, la couleur bleue que je vois là. Comment expliquer la couleur bleue à un aveugle de naissance? Allez-y. Expliquez-lui la couleur bleue que vous voyez. Et même si vous peaufinez votre développement, même si lui va faire tous les efforts possibles pour comprendre ce qu'est la couleur bleue, il sera à 100 lieues de ce que vous voyez en tant que couleur bleue. Et bien, c'est un peu la même image, si vous voulez, entre comprendre intellectuellement la vacuité et puis en avoir l'expérience. Voilà. Donc, la compassion, c'est vraiment faire le souhait que tous les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Et notamment de la cause fondamentale, c'est-à-dire cette ignorance fondamentale, cette conception d'une existence intrinsèque à tous les individus et aux phénomènes. Alors le texte dit que dans le processus du développement de la compassion, il est nécessaire d'être averti du malheur, et pour cela reconnaissez votre propre souffrance plutôt que celle des autres. C'est-à-dire que là, il met l'accent sur notre expérience. Et au lieu de toujours chercher à mettre de côté la souffrance, tout de suite, c'est drôle, quand on va en Asie par exemple, chez les Tibétains ou chez les Indiens, on voit qu'il y a un seuil de souffrance qui est nettement différent de notre seuil. On ne supporterait pas quelquefois les situations que ces gens-là supportent. Parce que dans notre société, dès qu'il y a le moindre petit, je dis pas de souffrance, dès qu'il y a le petit inconfort, on cherche tout de suite à éradiquer cet inconfort et à le remplacer par quelque chose qui, ouf, il a disparu. De temps en temps, ça peut faire du bien d'observer cette souffrance en nous et comment nous la vivons. Et de la comprendre. De comprendre ce qui se passe. Et plus nous la comprendrons, mieux nous comprendrons peut-être celle des autres. Alors, il ne faut pas dire qu'il faut être maso pour être un bon bodhisattva, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais la compassion, ça s'élève à partir d'une compréhension de la souffrance, et notamment de la nôtre. Et par le souhait, de s'en libérer. Donc, le texte dit, réfléchissez aux causes de la douleur. Et là, on en revient à la loi de causalité. Parce que dans la loi du karma, dans la loi de causalité, les actes entraînent une conséquence. Et lorsque ces actes sont accomplis sous l'effet de facteurs perturbateurs, c'est-à-dire en fait de la saisie égotique, donc de l'ignorance fondamentale, ces actes entraînent automatiquement une expérience douloureuse. Le fruit est toujours de même nature que la cause, ou l'acte qui produit ce fruit. Donc, si nous voulons nous libérer de la souffrance, il va falloir travailler sur les causes. Donc les facteurs perturbateurs, les actes négatifs, et toute l'éthique bouddhiste se base sur cette compréhension de la souffrance. Et il n'y a pas de notion de bien et de mal dans le bouddhisme, de façon absolue. Mais qu'est-ce que je dois modifier, qu'est-ce que je dois éviter dans mon comportement? Tel acte, je l'évite, parce que cet acte-là entraîne de la souffrance pour autrui. Et ça, c'est tout à fait l'attitude du bodhisattva. Mais ça demande un engagement, ça demande un travail sur notre esprit, parce que notre esprit est soumis à ses propres conditionnements. Et que le souhait est important, mais le souhait n'est pas suffisant, et qu'il faut absolument méditer et transformer notre esprit si nous voulons transformer nos actes. C'est pour ça que le Dalai Lama dit souvent, si vraiment vous voulez la paix dans le monde, commencez par transformer votre façon d'être. Faites la paix en vous-même. Parce que cela va entraîner toute une transformation d'attitude et lesquelles seront bénéfiques pour les êtres. Et que si nous ne transformons pas cette attitude intérieure, notre attitude, eh bien nous pouvons faire des souhaits, mais à cause des conditionnements de notre esprit, eh bien, lorsqu'il y a un gros facteur perturbateur, vous savez, la motivation, les souhaits, on y repense après. Hein. Mais sur le moment, on se laisse totalement emporter. Et là, on se dit, oui, ben, ça ne marche pas. Le dharma ne marche pas. La pratique, cette pratique-là ne me convient pas. Tous ceux qui font des pratiques en croyant que Chenrezig va leur transformer l'esprit comme ça de façon miraculeuse, ils peuvent attendre. Il n'y a qu'une façon de transformer notre esprit. C'est de faire travail sur notre esprit. Et c'est ça qu'on appelle profondément méditer. Les lamas, les maîtres, les Rinpoche, tout ça, ils peuvent que nous montrer le chemin, les textes, on a des textes aujourd'hui d'une grande valeur, etc. Et vous savez, on peut les apprendre par cœur. Hein. Si on ne les met pas en pratique, si on ne s'entraîne pas tous les jours à mettre un peu en pratique ces textes-là, rien ne va se modifier dans notre esprit. On va avoir une très belle bibliothèque chez soi, on va avoir beaucoup de savoir dans notre esprit, par rapport à tout ce qu'on aura lu, retenu, etc. Mais quelle va être la transformation de notre esprit? On va arriver à 80 ans, avec toujours les mêmes tendances égotiques, être énervé, être irrité par le premier qui passe, et qui ne correspond pas à ce que l'on souhaite, à ce que... C'est du concret, la pratique, hein. Voilà, donc essayez de travailler sur ces deux aspects. Comment vous pouvez dans votre quotidien développer l'amour et comment vous pouvez développer la compassion. Et lorsque vous voyez une situation pour laquelle vous ne sentez pas de compassion, c'est-à-dire de l'indifférence, mettez-vous simplement à la place de cette personne quelques minutes et dites-vous, tiens, si moi j'étais dans cette situation-là, qu'est-ce que je ressentirais? Comment est-ce que je vivrais cette situation? Et qu'est-ce que je souhaiterais pour que cette souffrance s'atténue, quoi? Et là, il y a des tas de solutions qui peuvent se développer dans notre esprit. Et à ce moment-là, eh bien, on peut offrir cela à l'autre parce que nous en avons une compréhension personnelle. Une réflexion personnelle. Pratique du bodhisattva, hein, c'est... Et pourtant, pratique du bodhisattva, il n'y a pas de grand véhicule, il n'y a pas de pratique du grand véhicule sans cette pratique du bodhisattva. Alors, voyez dans un premier temps ce que vous pouvez faire, ce qui est évident, ce qui est facile pour vous de faire. Mais voyez aussi sur quoi vous vous devez travailler pour modifier quelque chose de façon à faire autre chose, à faire encore un peu plus. Très lentement, très progressivement, jour après jour, tranquillement, quoi. Sans vous prendre la tête et sans vous dire, c'est dommage, je vais faire vraiment des miracles. Et si vous vous dites ça tous les jours, au bout de 6 mois, il y aura franchement quelque chose qui se sera modifié dans votre esprit. Et là, il y a un véritable cheminement spirituel, progrès spirituel. Mais celui-ci dépend de nous. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que dans l'enseignement du Bouddha de Valpola Raoula, il n'y a pas un chapitre sur le karma ? Je suis plus sûr, pas très sûr. Bon, sinon il y a des ouvrages de, je crois, de Kalu Rinpoche. Il y a aussi le commentaire du Dakotargen de Kampopa par Kalu Rinpoche, par Ringo Rinpoche. Et si vous m'expliquez le bouddhisme, il y a une page sur le. Il y a un chapitre sur le karma. Peut-être dans l'ouvrage aussi, ça je ne suis pas sûr. Dans l'ouvrage de Sogyal Rinpoche, le livre tibétain de la vie et de la mort, il y a peut-être quelque chose aussi sur le karma. Prenez des commentaires de maîtres actuels. Parce que. Je trouve que la loi de causalité, quand c'est des maîtres du 19e, 18e et avant qui en parlent, c'est peut-être pas toujours des exemples qui nous branchent bien. Quoi. Par contre, des maîtres actuels, ils peuvent l'expliquer d'une façon différente dans laquelle on est plus à l'aise. Quoi. Dalai Lama en parle certainement dans certains de ses ouvrages. Je ne crois pas qu'il existe un livre sur vraiment le karma. Il y a des sujets qui sont abordés dans beaucoup d'ouvrages, dans beaucoup d'enseignements. Ils font l'objet d'un chapitre. Je crois que quand on développe cet esprit altruiste, quand on développe cet esprit de compassion, etc., il y a une joie qui se développe dans notre esprit. Le fait de se sentir utile, de se sentir, d'aller vers... On expérimente les bienfaits de cette direction que l'on donne à notre esprit. C'est profitable pour autrui, mais c'est profitable aussi pour nous-mêmes. Et vous vouliez dire, Monique ?
Je reprends ce dernier point, c'est toujours moi, toujours ce qui me préoccupe le plus. J'essaie, d'après ce qu'on dit là, j'essaie de développer le sentiment de compassion. Je me sens mieux, je me sens plus en joie, je sens plus d'amour pour l'autre. Mais quand je rencontre un autre, qui lui... a subi des éléments traumatiques, etc., etc. Comment mon évolution, comment ma compassion va traverser, si je reprends le lien karmique aussi, chez l'autre, pour que l'autre puisse trouver ou retrouver la compassion, du bonheur, de la paix. Moi, je peux essayer de le développer. Comment ça va traverser l'autre? Comment je vais... c'est pas en lui donnant des conseils, c'est... comment je vais aider... comment je vais faire en sorte d'aider l'autre à participer à ça, et pour que l'autre, lui, trouve son chemin. C'est bien de se développer soi-même, essayer de faire tout ça, mais on n'est pas tout seul. Mais
bien sûr, oui. Parfait.
Et c'est là que... je me dis, et comment après? Comment je fais?
Mais
comment je suis? Comment ça passe avec l'autre?
Par votre qualité d'être.
Soit, qualité d'être.
Plus vous développerez cette compassion, plus votre attitude va se modifier, et plus cette attitude va apporter quelque chose à l'autre, mais plus vous trouverez des moyens pour aider l'autre qui, aujourd'hui, ne vous semble pas évident. C'est-à-dire que ça va se manifester de façon peut-être plus intense, plus profonde, peut-être plus sincère encore. Cette sincérité, cette profondeur, ça va vraiment toucher l'autre. Et puis, concret. Alors ça, c'est déjà du concret. Mais peut-être que vous serez à même, à ce moment-là, de trouver des moyens pour aider l'autre, alors que ces moyens, vous n'y pensez même pas aujourd'hui. Vous savez, il y a quelquefois, ça peut se produire dans le silence, ça peut se produire dans l'écoute, dans la façon d'être, dans la présence. On voit ça très souvent dans l'accompagnement de personnes en fin de vie, par exemple.
Oui, mais il y a ceux qui sont dans la vie au quotidien.
Oui. Mais je crois que il y a une transformation de notre attitude. On le voit chez les Rinpoche, chez les bodhisattvas accomplis, par exemple. Ils ne font pas de miracles. Mais ce qu'ils font, c'est toujours plus profond, plus intense, plus de façon plus présente, je ne sais pas comment dire, plus vrai qu'un être ordinaire. Et ce côté vrai, cet aspect vrai, touche davantage la personne à qui c'est destiné. Alors après, bien sûr que s'il peut faire quelque chose de concret, de concret, il le fait aussi. Il le fait. Mais il y a cette intensité dans la façon d'être qui accompagne l'acte que l'on peut accomplir si on accomplit un acte. Vous savez, les personnes en fin de vie, c'est très clair ça. Ça, c'est très net. La personne en fin de vie, si elle sent que vous n'êtes pas en total accord avec ce que vous lui offrez, l'attitude que vous lui offrez, elle ne reçoit rien. Elle vous fait bien sentir, ça ne passe pas. Donc, je pense que voilà, il y a cette qualité d'être qui ne se décide pas, qui ne se programme pas. C'est par la transformation de votre esprit que vous êtes comme ça. Et ça je pense que ça peut avoir un impact extrêmement puissant.
Alors, si vous parlez de la transformation de l'esprit, il faut aussi rajouter la transformation, par exemple, des ressentis comme les émotions.
Quand je parle de la transformation de l'esprit, ça veut dire que les voiles se dissipent. Quand les voiles se dissipent, qu'est-ce qui s'élève? Qu'est-ce qui reste? Le rayonnement d'amour et de compassion de l'esprit. Mais ça devient plus puissant, puisque ça s'élève encore plus. Donc ça devient plus vaste, plus puissant. Et c'est ce que... Vous avez des récits comme ça de personnes qui ont été transformées par simplement la présence, le regard, quelquefois simplement par le regard, du karmapa, par exemple. C'est de cet ordre-là, si vous voulez. Mm-hmm. Ça n'empêche pas le karmapa de s'il peut aider quelqu'un concrètement pour que l'autre aille mieux, eh bien, lui acheter des médicaments s'il est malade, ben, il va acheter des médicaments. Oui, ça c'est. Voilà. Mais il y a une autre qualité, je dirais, de présence.
Maman, tout à l'heure, quand vous parliez de la souffrance du changement, est-ce qu'elle n'est pas réduite forcément quand on a la certitude de l'impermanence ?
Ah si, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Plus nous allons travailler sur cette notion d'impermanence, plus nous allons considérer comme normale cette impermanence, moins cette impermanence nous fera souffrir. Bien sûr.
Par contre, par rapport à la souffrance, comme on en parle, et la douleur physique, qui forcément cause aussi de la souffrance physique, mais mentale, enfin morale, puisque les gens qui souffrent physiquement, souvent, ne vont pas bien aussi mentalement. Quels moyens, comment on pourrait essayer de réduire comment ça peut se faire?
Au niveau méditatif, au niveau de la pratique méditative, la sensation est un agrégat. Donc, dans la méditation, on devrait travailler sur tous les agrégats de la même façon. Et ça demande un entraînement. Mais cet entraînement, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, lorsque vous avez un inconfort physique pendant la méditation, si vous ne vous accrochez pas à cet inconfort physique, voyez ce qui se passe dans votre esprit. Et si pendant, à chaque fois que vous faites cet entraînement-là, vous faites cet exercice-là, votre esprit va s'entraîner à ne pas s'accrocher à la sensation. La douleur dans la maladie, c'est quoi? C'est une sensation. Et évidemment que si on ne s'est pas entraîné à cela, quand il y a une maladie et qu'il y a une expérience vraiment douloureuse, à la fois mentale et physique, ben l'esprit va s'accrocher, ça c'est sûr. Tout ça, ça montre que vraiment la méditation, c'est un entraînement d'esprit sur absolument vis-à-vis de toutes les expériences qu'on peut expérimenter, puisque toutes les expériences que l'on fait dans notre vie quotidienne, elle se retrouve, elle se rapporte toujours à un des cinq agrégats. Donc, on est toujours en train de travailler sur tel ou tel agrégat. Il y a des récits, par exemple, le 16e Karmapa, quand il est mort à Chicago en 1981 dans le cancer, eh bien, alors qu'il souffrait comme tout le monde. Mais c'était tellement évident que son esprit ne vivait pas cette souffrance comme chez un être ordinaire, que ça a transformé la vie de plusieurs personnes du service médical dans lequel il était. Il y a un récit d'un médecin. On a lu ça l'autre jour, lors du week-end sur la mort. Je crois que c'est dans le livre tibétain de la vie et de la mort de Soga Rinpoche, où il décrit. Et moi j'ai connu un moine, il était marié, il était infirmier, sa femme était infirmière dans le même service du karmapa. Il était tellement estomaqué que lui est devenu moine, elle est devenue nonne. Bon. Méfiez-vous ceux qui sont en couple, parce que karmapa vient en Allemagne au mois de mai. Hein. À ce sujet, voilà, c'est une info. Alors, retenez bien, là vous allez recevoir les bulletins d'inscription pour cette semaine pour Ringo Rinpoche à Luce. Ce n'est pas fin mai. Ça a été tout transformé. on a reçu il y a 4 jours un mail en nous disant qu'il vient le dernier week-end d'avril. Donc c'est le 25, 26 et 27 avril que Rinpoche salue. Alors pourquoi ? Alors il n'y avait pas de raison. Et puis comme j'étais à Berlin là, avant-hier, et que c'était officiel, donc on nous a dit le Karmapa a eu son autorisation de sortie par le gouvernement indien, mais pour l'Allemagne. Et alors, il sera en Allemagne exactement le week-end où Rinpoche devait être à Luz.
Je voulais vous poser une question. Voilà. Si Rinpoche serait là fin mai,
non,
il sera aux côtés de...
Il est auprès du Karmapa. Alors, du 28 mai au 9 juin, le Karmapa est en Allemagne. Alors, c'est vraiment une grande première, hein, c'est ça. La première fois qu'il sera en Europe. Et il va au centre à Kamalashila. Kamalashila, c'est un centre qui se trouve au sud de Cologne, tout à fait au sud de Bonn. Et là, il va enseigner pendant 4 ou 5 jours, vraiment des enseignements, et faire des initiations. Et ensuite, il va à Berlin, ou dans le centre de Sogyal Rinpoche, parce que c'est un très grand centre, et au niveau protection, il n'y a aucun problème pour assurer sa protection. Mais là, il va aller bénir le centre de Ringo Rinpoche, aussi à Berlin. Et là, il fera plus des conférences publiques. Et les enseignements qu'il donnera, c'est vraiment au centre Kamalashila. Voilà. Donc, c'est pour ça que Rinpoche a tout décalé, annulé. Voilà. En permanence.
C'est bien qu'il se veut dire.
Comment ?
C'est bien qu'il puisse venir à Luz.
Oui, il a proposé le week-end du fin avril, et là, il n'y avait pas de pratique ce week-end-là. Donc,
ça n'a pas la fête du Bouddha.
Oui, ça, il a annulé ça. C'est une conférence à la fête du Bouddha. Il vient à Kutolsheim, je crois, le 13 juin, voir Lama Sherab Hanifa, parce qu'il veut le rencontrer, parce que. Ils étaient dans une même classe de Kempo, je ne sais pas, quand ils avaient 25 ans, quelque chose comme ça. Et ils ne se sont pas revus depuis, et là, ils veulent le rencontrer. Quoi. Voilà. Mais non, pas pour la fête du monde. Alors, il y a ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Voilà. Le monsieur que vous avez rencontré tout à l'heure.
Ah oui, voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai rencontré le monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, le directeur qui organise des conférences au forum IRTS. Voilà. Alors, je dois intervenir le 29 avril. Donc, je ne sais pas où ça vous sait. Moi, je ne sais pas.
Oui,
c'est
le bureau du juin. Vous avez pas parlé de ça.
Ah oui.
C'est
ça. Donc il m'a recontacté, et puis par le biais d'un diacre aussi que je connais, qui habite Épinal, etc. Et donc, à 18h30, le 29, alors il m'a dit de vous le signaler, comme ça si vous êtes libre, vous pouvez venir, c'est un mardi soir, le 29 avril. Alors le sujet, c'est pas du tout une conférence que je fais, mais le sujet c'est mon itinéraire spirituel. Apparemment ça les intéresse, ils ont plein de questions à me poser là-dessus. Pourquoi ? Comment ?
Oui, on verra. Ça, il m'a jeté avec des gens qui sont
du salisme. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit.
Disons, il y a des conférences, évidemment, un peu plus de pignons, un peu plus de certaines choses.
Oui.
Modifier, de temps en temps, il y a comme ça des idées pour les
expériences. Oui. Et ça dure 1h30, 1h40. Il doit m'envoyer l'adresse parce que je ne sais pas quelle adresse c'est. Mais.
Tout en haut, là,
dans le bureau du maire, là, c'est ça.
Oui, c'est derrière. Donc, voilà.
Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai reçu une lettre aujourd'hui de Taillé.
Ah oui.
Oui, donc il va vraiment très bien. Il est en forme. Comment ?
Il sort le 10 août.
Il sort le 10 août, en retraite. Donc c'est bientôt. Il ne veut personne. Hein. Tout de suite, il va dans un voyage à Termaline. Il a envie qu'il est full à sa sortie. Ce qu'il veut, c'est vraiment être dans la solitude pour plusieurs mois. En général, on a vraiment besoin de ça quand on sort de retraite. Ras-le-bol, la coupe. Il y a un peu de ça. Hein. Après, il verra. Mais en tout cas, il va bien, son esprit est tranquille, et ça se passe vraiment très bien. Donc, vous voyez, 3 ans et demi, ça passe vite. Hein.
Il salue toute la communauté de Nancy, là. Très chaleureux.
Et vous, oui.
Demandez le transfert.
Oui, ça très bien, voilà. Parfait. Ouais, voilà. Pour l'arrivée de Rinpo Rinpoche à Luce, si vous êtes libre un jour avant, et vous êtes les bienvenus. À Luce pour nous donner un coup de main pour l'organisation, car à Luce il y a eu restructuration du centre. Nous avons demandé à Ghislaine, Lucas et Jérémy de quitter le centre. Voilà, donc nous nous retrouvons avec Orgienne et puis Sacha 3 jours par semaine. Et nous voulons absolument retrouver l'esprit dans lequel ce centre a été fondé. À savoir un centre qui permet la pratique, qui permet le recueillement à ceux qui veulent le silence, le calme et pratiquer. Voilà. Donc, depuis plusieurs mois, donc on leur a demandé de quitter le centre.
Voilà. En permanence.
Aussi. Il y a trop de centres, comment dire, il y a trop de centres qui vont vers moi j'en fais mieux je me porte, on va dire un peu comme ça, pour résumer. Et je n'ai pas fondé ce centre pour ça. Ceux qui veulent ça, il y a beaucoup de centres qui déjà existent pour ça. À Luce, que les personnes qui ont envie de calme, de silence, de faire des retraites individuelles, aient vraiment la possibilité eh bien, de vivre ça. Ce qui est difficile dans d'autres centres. Alors il faut qu'il y en ait pour tout, pour tous. Et donc, voilà.
Je voudrais une information. Le 8 mars, c'est-à-dire lundi prochain, aura lieu, comme tous les ans, la levée du drapeau tibétain place Stanislas à l'hôtel de ville, à 18h. Et à 18h15, il y aura une conférence par un médecin tibétain. Donc, si vous avez envie de venir, hein, c'est des portraits graphiques.
Et sûr ? Sur quel thème ?
Bah, je pense que c'est tibétain, hein, je ne sais pas, tu en sais plus, presque ?
Non. Donc, une information sur la médecine tibétaine, les principes fondamentaux de la médecine tibétaine.
Dommage que c'est aussi tôt, parce que je ne serais pas
surprise. En fait, tous les 10 mars, tous les ans,
à Nancy. Oui, c'est tous les ans.
Sous Nancy, c'est fait ça depuis déjà 10 jours. Et vous mettez le drapeau tibétain ?
Oui. C'est à l'initiative de Soliman ou Marc Vendetti?
Je ne sais pas qui est à l'origine. Enfin, c'est à l'hôtel de ville, hein, ils sont participants.
Au départ, c'est Marc Vendetti.
Ils sont du mal, donc à l'origine, je ne sais pas qui c'est qui a commencé, je ne sais pas comment ça a été. Mm-hmm.
Bah, si, ça vient conjointement aussi d'un député qui était Faudurier.
Oui.
Mm-hmm. Il était chargé des affaires tibétaines.
C'est bon ? Par cette vertu, puis-je simplement réaliser le Mahamudra et, sans l'exclusion du sol, établir en cet état tous les êtres. Merci.
Je vais prendre 2 minutes pour partir.